Radio-Télévision Suisse.
RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre librairie francophone. Aujourd'hui, une grande enquête dans la France des années 40, une escale à Madagascar, une chanteuse passionnée et un livre très féminin. Les femmes sont à l'honneur avec le recueil de textes de l'auteure suisse Mélanie Chapuis. Elle explore avec des courtes histoires très denses les rivalités, vanités, complicités ou encore les solidarités. Un livre concis, très étonnant. Autre femme sur notre plateau, la chanteuse Jeanne Chéral. Ses chansons à texte séduisent le public francophone depuis presque 15 ans. Elle est fan de littérature et notamment d'un certain Philippe Jaénada. Bonjour Jeanne Chéral.
Bonjour.
C'est votre première fois dans la librairie francophone.
Effectivement.
Soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Et on a invité celui que vous aimez tant.
Mais quel honneur, je suis vraiment très très heureuse. Merci beaucoup.
Vous êtes vraiment fan de Philippe Jaénada.
Très très fan.
Vous avez lu tous ses livres.
Il doit m'en manquer deux, je pense, plutôt du début, mais je suis une grande lectrice de Jaénada.
Et vous avez lu La Serpe,
évidemment.
Le dernier, donc on va en parler avec vous.
J'ai encore la tête dedans.
Et vous jouerez un titre avec nous, un titre pour nous dans notre studio au piano
avec
tout
plaisir.
À l'heure. Philippe Jaénada est donc avec nous, on évoquait déjà son livre avant sa sortie cet été, c'était dans la librairie francophone estivale. Depuis, le roman est sorti et il vient d'obtenir le prix Femina, 630 pages d'enquête autour d'un triple meurtre. Nous verrons ce qu'en pensent nos libraires.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires donc sont au multiplex avec nous. On accueille aujourd'hui un libraire du Tchad. On part tout de suite à N'Djamena avec Marius Gartara Garyenge. Bonjour Marius.
Oui, bonjour.
Vous dirigez la librairie La Source. Dans quel quartier êtes-vous? Qu'est-ce que vous voyez à travers votre vitrine au Tchad où vous êtes en ce moment, Marius?
Je vois des stations de lavage de voitures et de motos.
Oui.
Il y a également des boutiques en face. Je vois également des vendeurs ambulants, l'avenue Bokassa.
D'accord, l'avenue Bokassa. Et apparemment, à N'Djamena, il fait une trentaine de degrés. Donc, changement de température par rapport à l'Europe ou au Canada. Merci Marius, vous allez nous accompagner tout au long de cette émission. En Belgique, c'est la douce Déborah Damblon qui vous conseillera un livre à offrir pour les fêtes, comme ses collègues d'ailleurs. Ce sera tout à l'heure. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Je vais très bien.
Déjà les livres au pied du sapin ou presque. En Suisse, c'est Dominique Bressoux, libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose qui est avec nous. Bonjour Dominique.
Bonjour. Bonjour Emmanuel.
Un livre aussi à offrir, hein, surprise tout à l'heure, parfait. Et enfin au Canada, c'est Marie-Noëlle Blais de la librairie Raffin à Montréal. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Mélanie Chapuis.
Bonjour
Vous
Emmanuel.
Vous êtes une auteure suisse, on parlera de votre recueil de nouvelles fascinant tout à l'heure. Il sera question des femmes avec intégrité et même universalité. On verra ça ensemble, mais on commence toujours cette émission par une histoire personnelle, anecdote que je découvre en même temps que tout le monde. C'est vous qui avez carte blanche aujourd'hui. Que voulez-vous transmettre, Mélanie Chapuis?
Alors justement, il s'agit d'une histoire de mémoire, de transmission, de ce qui se transmet sans qu'on en soit nécessairement conscient. Bon, c'est une anecdote assez personnelle, hein, donc je ne sais pas à quel point c'est intéressant ou pas. Désolée si ça ne l'est pas.
C'est le but, que ce soit personnel, vous pouvez y aller.
Alors, mes parents m'ont conçue dans un petit village qui s'appelle Puy, entre Vevey et Lausanne.
Mmh.
Et puis après, moi, je suis née à Bonn, j'ai voyagé toute mon enfance. J'étais au Nigeria, j'étais au Guatemala, en Argentine, à New York. Après, je suis revenue faire mes études à Genève. Et puis, voilà, tout à coup, je tombe enceinte dans la même rue où mes parents m'ont conçue.
Ah oui.
Donc rien ne me prédestinait à revenir là-bas. J'y ai passé 4 ans, j'en suis repartie. Et voilà, c'est quelque chose que je trouve assez fou, assez émouvant. Comme tout à coup, il y a des, je ne sais pas si c'est une coïncidence, je ne pense pas. Il y a des choses comme ça qu'on ne comprend pas, mais tout à coup, ces petites choses de la vie qui font que...
Le retour aux sources.
Le retour aux sources, voilà.
On parlera de la maternité d'ailleurs tout à l'heure.
Oui.
Devenir mère change beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a changé beaucoup de choses chez vous aussi. Nous en parlerons ensemble. Mélanie Chapuis est dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Philippe Jaénada.
Bonjour Emmanuel.
Quel bouquin, 630 pages, pour raconter un fait divers qui s'est déroulé dans les années 40 en France, en pleine guerre. Vous avez reçu le prix Fémina pour cet ouvrage, La Serpe, après Bruno Soulac et Pauline Dubuisson, La Petite Femelle. Vous vous attaquez à l'histoire d'Henri Girard, fils de bourgeois, survivant d'un massacre familial et seul héritier. Il a été acquitté, mais il reste le coupable idéal. Il est resté le coupable idéal. Alors vous avez repris l'enquête.
J'ai repris l'enquête.
Pourquoi ?
D'abord, une petite parenthèse pour commencer. Je suis extrêmement ému. Jeanne a dit des choses très gentilles. Je suis extrêmement ému. Je referme la parenthèse.
Remettez-vous.
Voilà.
Ce n'est pas fini en plus.
J'ai repris l'enquête parce que c'est un ami qui me l'a demandé, qui est le petit-fils d'Henri Girard, qui s'appelle Emmanuel.
Très joli prénom.
Voilà, un prénom formidable. Et souvent un prénom d'entêté parce que pendant plus de 10 ans.
C'est vrai.
Pendant plus de 10 ans, il a essayé de me convaincre d'écrire sur son grand-père qui avait une vie incroyable, qui avait été clochard et millionnaire sur tous les continents, vagabond, mené des combats politiques. Et moi, je lui ai dit, c'est trop vaste. Pour moi, j'aime les petits trucs qui clochent, les petits trucs qui dérapent.
Vrai, ouais.
Il a mis 10 ans pour me dire un jour au dessert chez lui, j'ai oublié de t'en parler, mais mon grand-père est mort il y a 30 ans et aujourd'hui encore, tout le monde pense qu'il a massacré toute sa famille à coups de serpe. J'ai dit voilà, un petit truc qui dérape. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Pendant 3 mois, j'ai fait des recherches à Paris. Et au bout de 3 mois, je lui ai dit, écoute Manu, je vais pas pouvoir écrire sur ton grand-père parce que c'est évident que c'est lui qui a massacré toute sa famille. Pour l'argent, et qu'en plus il a été acquitté, et qu'il a eu une belle vie après, c'est horrible.
Alors c'est ça que vous démontrez d'ailleurs, dans le livre, dans la première partie du livre, Philippe Jaénada. C'est une histoire qui n'est pas si compliquée que ça, je dirais presque pas si atroce que ça, parce que...
Dis donc, vous en avez vu, c'est un bain de sang.
C'est un bain de sang, il y a 3 morts, c'est un massacre, mais c'est pas un charnier non plus. Mais on a l'impression que vous manipulez le lecteur, Philippe, parce que au début de votre livre, effectivement, vous le décrivez comme étant un sale gosse, infect, et ensuite c'est un gentil garçon aimant son papa.
Ouais, alors je manipule le lecteur comme on a manipulé les gens à l'époque et pendant longtemps, puisque c'est l'image qu'on avait d'Henri Girard puis de Georges Arnaud, c'est vraiment d'un sale gosse, ensuite d'un sale type, et d'un assassin et de tous les défauts du monde. Et moi, pendant au moins 3 ou 4 mois, j'étais convaincu, j'avais cette image que c'était le pire des hommes et un assassin vraiment sans scrupule, quoi. Et c'est quand je suis parti à Périgueux, j'ai loué une petite voiture et j'ai fait mon petit détective du dimanche, je suis parti à Périgueux, c'est là que petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que les apparences, je devrais le savoir à mon âge, mais que les apparences sont souvent très trompeuses. Ouais. Mmh. Et puis voilà, petit à petit, ça a été vraiment progressif pour moi aussi, jusqu'à la certitude absolue, en ce qui me concerne, qu'il était innocent et que c'était un bon gars plutôt.
On va cheminer avec vous, Philippe Jaénada. Vous faites en fait d'un fait divers, une grande histoire et un gros roman.
Oui.
C'est ça le truc.
En fait, j'étais parti au début pour faire un petit roman, un roman assez court, et surtout un roman qui serait centré uniquement sur ce crime qui est... C'est très kitsch, on dirait du sous Agatha Christie, c'est-à-dire c'est un château sinistre.
Ouais.
Et puis, je me suis rendu compte, d'une part, que le personnage principal, l'accusé, Henri Girard, qui est donc devenu Georges Arnaud, qui a écrit Le Salaire de la Peur, était vraiment quelqu'un avec une vie extrêmement complexe, riche, dense. Et je me suis dit, ce serait dommage de résumer cette vie à quelques pages. Donc du coup, mon livre a commencé à s'étoffer un petit peu.
Oui, vous êtes répandu un petit peu.
Je me suis répandu, voilà.
Grand
désespoir de mon éditeur.
Justement, tiens, parlons de l'éditeur, Philippe, parce que j'ai une vraie question là-dessus. Comment s'est passée la publication de votre livre? A-t-il fait des coupes? A-t-il fait des commentaires? A-t-il édité, comme on dit, votre livre vraiment? Ou vous a-t-il laissé carte blanche?
Il ne manquerait plus qu'il fasse des coupes. Alors des commentaires, oui.
Oui, c'est
mais,
ça.
La relation
il a tout publié.
Ouais, il a tout publié. Il m'a dit, si tu veux faire 2000 pages, tu fais 2000 pages du moment que ça se lit comme si c'était 200. Et c'est rare, hein, parce que maintenant, la plupart des éditeurs... J'ai fait 10 ans dans une autre maison, par exemple. Avant de lire mon manuscrit, quand je le rendais, on me disait « Ah, faut enlever un tiers », sans qu'il l'ait lu, quoi.
Mmh. Mais c'est un peu long, quand même. Vous êtes conscient de ça?
Je suis conscient que c'est un peu...
C'est très long, même.
Ça vous a vraiment saoulé?
Non, ça a été très long à lire. On va voir du côté des libraires, ce qu'ils en ont pensé. Hein, d'accord, avec 3 libraires qui ont lu votre roman, Philippe Jaénada. Le Canada, la Belgique et la Suisse. On commence par qui?
On commence par le Canada.
On commence par le Canada. Marie-Noëlle Blé.
Oui, ben moi je dis bravo, hein, malgré la petite obsession pour les parenthèses poupées russes et les apartés nombreux qui peuvent nous exaspérer de ne pas arriver plus vite à destination. Force est d'admettre que vous maîtrisez très très habilement les sorties de route acrobatiques qui tiennent le lecteur en haleine. Et le procédé pour moi fonctionne à merveille. On se prendrait même presque d'affection pour Henri Girard. J'ai trouvé ça efficace, brillant, passionnant, parfois d'apparence un peu potache, mais drôlement bien mené.
Bien.
Ça va, ça va, ça passe.
Ça passe.
Un petit 14.
Un petit 14. La Belgique, Déborah Damblon, êtes-vous d'accord?
Mais oui, je suis d'accord. Ben moi aussi, je suis une de vos fans. J'aime beaucoup tout ce que vous écrivez. Et puis, je vous avoue que j'ai dû m'appuyer là-dessus pour démarrer. Parce que quand même, je trouvais que le début, c'était un peu Club des Cinq, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, beaucoup de détails, beaucoup de précisions, pas tellement d'action. Et puis, vu la taille du roman, je me suis un peu inquiétée. Je me suis dit, oh là là. Et puis voilà, comme c'est vous, eh ben, il y a un moment où vous nous attrapez. Et puis, sans qu'on s'en soit rendu compte, on est parti, on est dedans. Et ça, c'est comme toujours votre subtilité. Et on ressort du roman plus riche, plus nourrie, comme après les rencontres importantes.
Bien. Merci. Jeanne Chéral se calme parce qu'elle boue hein, à côté avec les critiques négatives. Jeanne, tout à l'heure, vous direz ce que vous pensez du livre de Philippe, rassurez-vous.
Je ne sais pas si j'aurai les mots, mais en tout cas...
Allez, on continue avec la Suisse. Il manque Dominique Bressou. Dominique.
Bah, moi, il faut bien le reconnaître, quand j'ai vu arriver un pavé de cette épaisseur, je me suis dit, au pire, il servira pour caler mon piano. Mais en fait, dès que je l'ai commencé, j'étais prise dans l'ambiance et surtout, j'ai suivi avec délectation les méandres de votre enquête. Et vos digressions sont tellement drôles et bien placées qu'on n'a jamais d'impression de lassitude. Pour moi, c'est écrit à la française et c'est tellement plus prenant et passionnant que des enquêtes menées à l'américaine.
Vous faites l'unanimité malgré deux, trois critiques. Ouais, ouais. Quoi, voyez Emmanuel?
Non, parce que vous disiez c'est long.
Ah oui, c'est long. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'est qu'on n'en pouvait plus. Mais c'est vrai que vous avez cette capacité, ce talent, Philippe Génada, de faire des digressions qui racontent comme ça les coulisses de votre enquête. Et ça, c'est toujours très drôle. Dans La Petite Femelle, je vous l'avais dit, vous vous souvenez, oui. Avec Pauline Dubuisson, vous aviez réussi à nous faire rire aux éclats dans un moment particulièrement dramatique. Et c'est ça la force de Philippe Génada. Jeanne Chéral, ne me regardez pas comme ça. Vous le pensez pareil, je suppose.
Bien sûr, vous parlez de La Petite Femelle, moi, pour moi c'est un livre éminemment féministe en plus. Vous avez une façon de dévoiler, de déployer l'intériorité féminine, avec un talent. Enfin, je trouve que vous êtes un auteur féministe, quoi.
Ouais. Et il aurait dû avoir le prix Femina d'ailleurs pour La Petite Femelle et le prix Renaudot pour celui-ci. Mais bon, ça n'engage que nous. On va faire un petit tour en Amérique du Sud, écoutez. C'est Philippe Génada?
Oui, bien sûr.
C'est la bande originale du film Le Salaire de la Peur. Ben... Car Henri Girard, vous l'avez dit tout à l'heure, deviendra le célèbre Georges Arnaud, auteur du Salaire de la Peur, qui se déroule en Amérique du Sud, adapté au cinéma par Clouzot, Palme d'Or à Cannes en 53. Ça se passe pas très bien d'ailleurs entre les deux. Ah, il a 24 ans, bien avant l'écriture de ce livre, quand dans le château familial, on tue un soir son père, sa tante et la bonne... à la serpe. Il est tout jeune et il se défend pas beaucoup. Il est très nonchalant.
C'est le moins qu'on puisse dire. Il se défend pas. C'est-à-dire que quand les gendarmes et le maire du village arrivent au château, donc il est le seul survivant, le seul héritier. Son père et sa tante étaient les deux seuls au-dessus de lui dans l'héritage de la fortune familiale. C'est lui qui s'est débrouillé pour les réunir au château. Le père ne devait pas être là. Il a insisté pour que son père soit là ce soir-là. On retrouve une serpe ensanglantée dans la chambre de la bonne. La voisine dit « Oui, il m'a emprunté la serpe avant-hier. » sous un prétexte quelconque. Et donc, les gendarmes et le maire arrivent. Il leur propose une cigarette, un verre d'oignol, d'eau de vie.
Il va jouer au piano.
Il se met au piano, il joue, dit-on à l'époque, la marche funèbre, ce qui est vraiment d'un cynisme terrible.
En fait, il joue la tristesse, hein, je crois.
En fait, il joue Tristesse de Chopin, ouais. Et ce qui change tout, finalement. Et bref, il a l'air complètement indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. S'il y a eu un jour un coupable idéal, un suspect idéal dans une affaire de crime, dans l'histoire du crime, c'est Henri Girard.
Le 27 mai 1943, à 9h du matin, commence au tribunal de Périgueux le procès devant la cour d'assises de la Dordogne du nommé Girard Henri, Georges Charles Achille, accusé de parricide, d'assassinat et de meurtre sur les personnes de son père, Georges Girard, de sa tante Amélie Girard et de leur bonne Louise Soudet.
Le procès est incroyable, Philippe Génada, il est à charge, l'issue semble jouée d'avance, Henri va y rester, hein, c'est ce qu'on croit, et pourtant, contre toute attente, c'est le coup de théâtre, on dirait un scénario de film. Il y a le grand avocat de l'époque, Maurice Garçon, grand ami du père assassiné, qui va défendre le fils présumé coupable, tout ça est dans une ambiguïté absolue.
Oui, Moi, c'est d'ailleurs une des premières petites choses qui m'a un peu titillé quand j'étais persuadé qu'il était coupable, c'est que Maurice Garçon, qui était dans un tribunal un renard, qui pouvait être fourbe, mais dans la vie était quelqu'un, je pense, de très rigide presque, qu'il accepte de défendre celui dont tout le monde pense qu'il est l'assassin de son ami. Je me suis dit, il y a quelque chose qui... Et Maurice Garçon, et le procès est très trouble, c'est-à-dire qu'il a été acquitté, mais à la surprise et à l'indignation générale. La seule question, c'était, est-ce qu'on lui coupera la tête la semaine prochaine ou dans un mois, quoi. Mais tout le monde... Et Maurice Garçon fait un numéro, mais un truc de cirque, hein, presque d'hypnose des jurés. En 2 heures, il retourne tout le monde, les jurés partent, et je pense que ça doit être un des records du monde. Ils mettent 8 minutes pour délibérer.
Entre et 8 et 13 minutes,
ouais,
exactement.
Selon les journaux de l'époque, entre 8 et 13 minutes. Vous l'avez lu bien, quand même, attentivement,
ah bah
ça
oui,
fait plaisir.
C'était long, mais je l'ai lu.
Il insiste. Et il est acquitté, ce qui paraît absolument impossible. C'est-à-dire que même si un jury, tous les jurés sont unanimes et convaincus de la culpabilité ou de l'innocence de quelqu'un, le président du tribunal, en général, a pour rôle de leur dire d'accord, mais on va quand même en parler, etc. Ils ont dit, il est innocent, boum, 8 minutes.
Et Henri va plus tard confier des choses à des personnes qu'il côtoie, laissant entendre même que les jurés ont été corrompus. Il y a une grande histoire, comme ça, une sorte de fantasme. Il dira clairement même être le meurtrier, notamment un Gérard de Villiers, auteur des romans d'espionnage SAS, vous savez, les sortes de mauvais James Bond érotiques, qui va lui-même raconter ses confidences à la radio.
J'allais le rencontrer pour... Je voulais racheter les droits de remake, les salaires de la peur. Et c'est là, après discuter de choses et d'autres, j'ai dit, mais maintenant, bon, tout ça, c'est vieux, c'est très bien, mais est-ce que c'est vraiment toi qui les as tués? Il m'a dit oui. Mais il ne m'a pas donné ses motivations.
Et la bonne, vous lui dites?
Oui, la bonne, oui, mais j'étais énervé, j'étais pas moi-même, et je pense que, je pense que tout simplement, il ne pouvait pas laisser de témoin.
Voilà, et ça corrobore finalement ce que l'on pense d'Henri, car il a un comportement, dit-on, assez dur vis-à-vis de son père, de sa tante et de l'argent. Il les détesterait, et c'est un flambeur. Alors vous, Philippe, inspecteur Colombo, vous allez fouiller dans les correspondances entre Henri et son père, et vous découvrez un fils modèle. Vous lisez son affection pour sa tante Amélie, il a un rapport à l'argent complètement distancié, et surtout, il adore son papa.
Moi, quand je suis tombé là-dessus, c'est la première chose que j'ai lue en arrivant aux archives de Périgueux. Il y avait tellement de pièces d'interrogatoires, de procès-verbaux. J'ai commencé par la correspondance qui a été saisie, qui a été mise dans ce dossier en 1941 et qui n'en est jamais ressortie. J'ai été le premier à consulter le dossier. Et là, on trouve des lettres, mais qui sont... Je suis assez costaud, hein, je suis un ours. Je pleurais dans la salle de lecture des archives. J'étais entouré de quelques papis et quelques mamies qui faisaient leur généalogie, là, qui me regardaient, l'air de dire qu'est-ce qui lui arrive, ce grand costaud. Ce sont des lettres qui sont presque nunuches, quoi, d'amour entre un père et un fils. Mais c'est de l'amour, mais pur. Il savait que personne d'autre ne les lirait, donc... Et moi, ça m'a mais vraiment bouleversé.
Ouais, et tout bascule, là, du coup.
Et moi, je me dis, il y a quelque chose qui cloche. Ouais,
tout bascule. Un procès complètement à charge. On peut pas tout raconter. Jeanne Chéral, vous avez lu La Serpe. Vous êtes fan, donc, de Philippe Jaénada. C'est pour ça que je vous ai invité. Qu'avez-vous pensé de ce livre? Faites la libraire aujourd'hui.
Bah, alors moi je ne l'ai pas lâché, quoi. Enfin, c'est un livre qui m'a attrapé. Et puis, en fait, vous écririez sur n'importe quoi, sur le bistrot en bas de chez vous, c'est pas comme si vous le faisiez. Je lirais, enfin je suis tellement...
Mais vous savez qu'il va à un bistrot en bas de chez lui, oui, et qu'il consulte bien. Là-bas, il a dit dans
le bistrot Lafayette.
Oui, c'est ça.
Non mais voilà, enfin ce qui me plaît d'abord chez vous, c'est votre style et votre art de la digression qui est à la fois très drôle, toujours pertinent, toujours enfin plein de fantaisie, et puis on reste en haleine en fait en vous lisant. C'est toujours plein d'empathie pour vos personnages. Et j'ai l'impression que La Serpe, c'est une entreprise de... Je rougis en disant ça, parce que ça m'émeut de vous voir. De réhabilitation, en plus enfin par rapport à votre ami, à Manu. C'est très émouvant, quoi, de se dire que... Enfin, lui, il a dû prendre ça comme un cadeau somptueux. Enfin,
je crois qu'il a bien aimé. Ouais.
Bah, c'est complètement fou, quoi, de faire ça pour quelqu'un. Et être aussi émouvant et drôle en même temps, enfin, c'est rare,
c'est vrai,
quoi.
C'est vrai.
Ça me touche beaucoup, beaucoup.
Bah, vraiment, je vois, ouais. Oui. On va vous laisser vous remettre, hein. Philippe, juste une dernière chose. C'est vrai que c'est une enquête d'une autre époque. Parce qu'on se dit, c'est dans les années 40, hein. Il faut pas oublier, hein. Entre 40 et 47. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'on n'a pas la technique, on n'a pas la politique. police scientifique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce serait plié, on aurait le coupable, ce serait plié, il n'y aurait même pas un bouquin là-dessus.
Aujourd'hui, ce serait plié, cette affaire-là aurait mis quelques jours.
Oui, c'est ça. Ouais.
Mais moi, on me dit souvent, oh là là, la justice dans les années 40. Il y a des affaires maintenant, il y a en particulier en Suisse. Il y a un monsieur qui s'appelle François Légeret, qui est en prison depuis 12 ans, et ouais. qui est de toute évidence, presque de toute évidence, innocent. C'est la même histoire, sauf que lui, il est en prison, il n'a pas été acquitté.
Ouais, il y a encore des histoires.
Donc la justice aujourd'hui, c'est pareil.
La Serpe est parue aux éditions Julliard, et c'est le prix Femina 2017. Félicitations, ouais. Philippe, on est content pour vous, parce qu'on vous suit depuis quelques années, et Dieu sait si vous méritez les prix littéraires. Jeanne Chéral va s'installer au grand piano noir, qui est juste derrière.
Je suis pas en état du tout, là.
Ouais, si, hein. Vous devez jouer un titre, non, oh je plaisante. C'est pour, en plus, Philippe, hein, c'est un titre en hommage un petit peu. Enfin, vous nous direz tout à l'heure. Hein.
J'ai pris ce qui me venait.
Ah bah, vous avez choisi quand même. Voici un extrait de votre album Histoire de J. J'ai faim, c'est le titre. Jeanne Chéral dans la librairie francophone.
J'ai faim quand je te regarde. Je pourrais dévorer ton visage. Ta nuque et ton cou comme un amoureux jaloux, attends-tu ça de moi? J'ai faim quand je te regarde. Si tu pouvais m'offrir à ton âge un cœur éclaté, un jardin de pluie d'été, moi j'attends ça de toi. J'ai faim, je voudrais courir sur le bitume accroché de clous, la falaise de sel au mois d'août, le parvis des églises et des temples. J'ai faim, je voudrais mourir dans un éclat de rire à minuit, dans un fracas de verre à midi, ma caresse arrêtée sur ta tempe. Pays, si je pouvais trouver le courage de nager jusqu'au sexe de la terre. J'ai faim le jour et la nuit, je ne veux plus dormir davantage. Parle-moi des semaines, des heures entières. J'ai faim, je voudrais courir sur le bitume accroché de clous, la falaise de sel au mois d'août, le parvis des églises et des temples. J'ai faim, je voudrais mourir dans un éclat de rire à minuit, dans un fracas de verre à midi, ma caresse arrêtée sur ta tempe. J'ai faim de lait de riz blanc, de verbes féminins, de musique. Dedans sur mon cou, j'ai faim d'un amoureux fou, tu sais, j'ai faim. Souvent, j'ai faim de mots étouffants, de perles d'eau, de forêts antiques, de cris de naissance et de bruit dans le silence, tu sais, j'ai faim de tout.
Jeanne Chéral, j'ai faim au piano dans le studio de la librairie francophone. Merci beaucoup Jeanne. Pourquoi avez-vous choisi de jouer ce titre? Est-ce qu'il y a un rapport avec Philippe Jaénada d'abord?
Sûrement, parce que c'est la chanson qui m'est venue à l'esprit quand j'ai su qu'il allait falloir que je chante. C'est une chanson qui est vraiment... Enfin, c'est vraiment, j'ai faim de tout, quoi. J'ai faim de la vie, j'ai faim. Et j'ai l'impression que Philippe Jaénada, quand il écrit, il est comme ça.
Oui.
Il est extrême, il est entier.
Bon, on va vous laisser boire un verre d'eau, parce que c'est très compliqué d'enchaîner comme ça après un titre acoustique. Et vous allez vous installer en plateau avec nous.
Une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS, la première.
RTBF, la première.
Ici, Radio-Canada, première.
France Inter.
Jeanne Chéral est donc avec nous pour cette rencontre avec Philippe Jaénada et un entretien autour des textes de ses chansons, de son rapport au livre aussi. Elle vient d'où cette passion pour l'écrivain Philippe Jaénada, Jeanne?
Moi, je vous ai découvert en fait au départ par le biais de Nicolas Ray, qui lisait dans son duo Les Garçons Manqués. C'était il y a un an ou deux,
oui.
Son duo avec Mathieu Saïkali. il lisait des extraits de Nefertiti dans un champ de canne à sucre. Voilà. Et en fait, bon, le premier livre que j'ai lu de vous, c'est celui-là. Mais la première fois que j'ai entendu parler de vous, enfin, il disait pas forcément de qui étaient les textes. Il le disait à la fin, mais vraiment, ça m'a accroché. Quoi. Je me suis dit, mais c'est quoi cet ovni? Enfin, ça m'a beaucoup charmé. Et la première passion que j'ai eue, c'est Sulac.
C'est vrai que vous avez un côté très littéraire, Jeanne Chéral, parce que vous avez fait des études littéraires, vous auriez dû être prof de philo, je crois, hein, c'est ça, ça a failli.
Oh, j'aurais dû. Bah, c'était tout ce qui m'intéressait quand j'étais en terminale. Vraiment, c'est le seul cours que je séchais jamais. Enfin, j'avais une prof de philo en plus qui transmettait vraiment, qui nous vous voyait. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être des adultes avec elle, Madame Cadou. Et donc voilà, j'ai fait des études de philo après mon bac parce que c'était ce qui me paraissait le plus logique, naturel et attirant.
Alors du coup, vous racontez de petites histoires, vous jouez de plusieurs instruments, et quand vous êtes au piano, on pense à Véronique Sanson. Beaucoup ont dit ça, c'est vrai, hein, c'est un peu ça. C'est une inspiration assumée, Véronique Sanson. Il y en a d'autres, on va y revenir.
Bien sûr.
Ouais. Philippe Génada.
Oui. Que dire ? Je suis sous le coup encore. Moi,
c'est vrai ?
Ouais.
Pourquoi ?
Bah, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose. La musique, c'est pour moi quelque chose de très étrange, quoi. Qui est autant la littérature ou la peinture, j'ai l'impression que c'est du travail un peu. La musique, il y a quelque chose d'un peu magique. Mmh. C'est un cliché de dire ça. Mais...
Donc, voilà, et non, vous écrivez des fois en musique ou pas trop ?
Et non, c'est alors il y a un truc très bizarre, c'est que la musique a complètement disparu de ma vie.
Ah bon ?
Ouais, c'est drôle. Hein. Et l'autre jour, on me demandait d'ailleurs depuis quand, et je me suis rendu compte que ça correspond au moment où j'ai rencontré ma femme. Alors, je sais pas, s'en tirer des...
Merci Anne-Catherine.
Oui, Anne-Catherine, ouais. Peut-être qu'elle est la part des musiques de ma vie, j'en sais rien, mais c'est bizarre. Et en tout cas, non, je peux pas écrire en musique, même avant, parce que j'ai besoin d'une concentration. Là, comment voulez-vous être concentré en entendant des chansons comme ça? C'est impossible. Donc, je pourrais pas écrire.
La force de Jeanne Chéral, ce sont les textes. On vous a sollicité aussi pour écrire des textes pour Johnny Hallyday, notamment. 3 titres sur son 50e album studio, qui restera le dernier album sorti de son vivant, avec cette chanson, Un dimanche 2 janvier, écrite après la marche républicaine organisée en hommage à Charlie Hebdo. C'était en janvier 2015. Quel souvenir gardez-vous de l'écriture de ce titre et puis de la voix de Johnny Hallyday qui la chantait?
Oh bah, un souvenir, c'est puissant quoi. Déjà c'était très inattendu pour moi de pouvoir écrire pour lui, parce que on veut tous écrire, enfin on voulait tous écrire pour Johnny quoi. C'est vraiment l'interprète ultime quoi. Et j'ai fait plusieurs chansons avec Maxime Nucci, Yodelis.
Oui.
Et vraiment, ce texte-là, Un dimanche de janvier, c'était une volonté de la part de Johnny Hallyday, quoi, de chanter sur cette marche. Il n'avait pas pu être présent à la marche du 11 janvier, mais ça l'avait énormément touché. Et il avait envie d'en parler, quoi. Il avait envie de parler de ça.
Et vous l'avez écrite d'ingé, comme ça, parce que vous avez l'habitude de réagir à l'actualité. Souvent, vous postez comme ça des petites chansons sur Internet qui deviennent de grandes chansons. Là, c'est devenu une grande chanson.
Bah celle-là, j'ai pas pu l'écrire d'un jet, parce qu'en fait la musique était faite, elle était vraiment millimétrée, je me suis calquée sur la musique de Maxime.
Ouais.
Et c'est un super exercice aussi d'écrire sur une musique déjà faite.
Au milieu de la foule immense, et le vent à notre place, chanter sans fin sur la place, pour apaiser la peine.
Vous êtes très proche, hein, très respectueuse des grands artistes de la scène francophone, Jeanne Chéral, Brassens, Moustaki, Sanson, Hallyday. Et quand vous avez reçu une victoire de la musique pour votre album à succès 12 fois par an, vous l'avez dédié à Jacques Higelin.
Ouais. Bah oui, parce que c'est quelqu'un de très important pour moi. C'est un peu mon parrain de chanson.
Ouais, c'est vrai. Vous avez de sacrés parrains, vous. Hein.
Bah, j'ai fait ces premières parties vraiment quand j'étais... J'allais dire quand j'étais petite, j'étais pas petite, mais vraiment au tout début,
ouais,
là, il y a 15 ans.
C'est grâce
ans,
à lui, ouais.
J'ai démarré vraiment avec lui, j'ai eu l'occasion de faire un duo sur l'album dont vous parliez, 12 fois par an avec lui, et puis c'est quelqu'un qui me touche profondément.
Dans vos chansons, vous dites vous sentir solidaire des femmes. On va parler des femmes dans quelques instants avec Mélanie Chapuis. Vous avez même écrit un texte qui évoque le harcèlement sexuel et le viol. Quand c'est non, c'est non.
Ouais. Oui, c'est une chanson, j'avais envie de prendre cette phrase un petit peu comme un... Déjà, c'est une phrase qui sonne.
Ouais.
Et c'est une chanson qui a déjà quelques années, mais je trouvais que c'était important.
Mais elle résonne très fort aujourd'hui.
Ah bah ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est, je trouvais que c'était important. Enfin, c'est une chanson que je chante avec mes amies les Françoises sur mon album. Vous connaissez, je pense, Émilie Loiseau. Vous êtes
oui,
proche d'Émilie.
Émilie,
voilà. Ouais. Donc Émilie fait partie des Françoises. Il y a Camille, la grande Sophie, Rosemary Stindler, Olivia Ruiz. Et on chante. Je voulais vraiment que ce soit un cœur féminin qui chante ça, quand sinon c'est non. Sans que ce soit agressif, quoi, que ce soit transmis. Mais...
Et vous dites quand même chanter et aimer le corps de l'homme.
Ah bah bien sûr. Comme si c'était incompatible. Enfin,
mais j'ai pas
Emmanuel.
J'ai jamais dit que c'était incompatible, je souligne.
Non mais féministe, ça veut pas dire anti-mec. Jamais.
Personne n'a dit ça, Philippe Génada qui est à côté de vous non plus, il acquiesce.
Ah bah non, mais ouais, évidemment, je glorifie le corps masculin.
Bien sûr, il faut. C'est très important.
Il faut.
Bon, merci Jeanne Chéral. Votre dernier album en date, Histoire de J, est sorti chez Barclay Universal. Vous restez avec nous, on vous a confié une autre petite mission avec les livres à offrir pour Noël. Vous avez un choix, évidemment, Philippe aussi. Et on vous emmène à Madagascar à présent, ou presque, avec un reportage sur une maison d'édition malgache. Nous avons rencontré Zouara Valosson, son directeur, à Francfort lors de la Foire du Livre. Dodo Vol fait partie des éditeurs soutenus par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Notre maison d'édition s'appelle Dodo Vol. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les dodos, c'est des oiseaux qui ont disparu. Ils ont disparu parce qu'ils étaient trop gros et leurs ailes étaient trop petites. Ils ne pouvaient pas voler. Et donc, il suffisait que les marins débarquent sur une île avec un grand bâton. Ils couraient un peu après un oiseau. Ils tapaient dessus. Ils avaient de la viande pour une semaine. Et donc, nous, on pense que les livres sont les ailes pour les enfants. Et comme ça, ils pourront toujours exister. Et ils ne vont pas disparaître ou terminer dans une casserole. Dans notre maison d'édition, on a commencé avec une collection de livres d'art. Et ce livre d'art parle des travaux d'artistes malgaches, bien sûr, mais aussi mauriciens et réunionnais. Le marché du livre à Madagascar étant très petit, il nous fallait, pour subsister, parler des autres aussi autour de nous.
Qu'est-ce que ça veut dire, un marché du livre restreint ?
Un marché de livres très restreint, vous voulez des chiffres ? Pour nous... 500 exemplaires, c'est un best-seller.
Combien coûte un livre à Madagascar, en moyenne ?
En moyenne, autour de 4-5 euros. C'est un cinquième du salaire minimum. On produit beaucoup de livres bilingues et on dit aux francophones, aux parents francophones, quand vous achetez un livre bilingue, en français et en malgache, ou en français avec une autre langue, vous permettez à un éditeur local de faire des livres pour leurs enfants. On a une collection de livres de contes qu'on fait dans les écoles.
D'accord, ils sont magnifiques, ils ont un format à l'italienne, rectangulaire comme ça, et le papier est très beau, la couverture est très belle. C'est une vraie réalisation, vous les produisez où ces livres ?
Et les illustrations sont faites par les enfants.
Ah oui, qu'on voit en photographie. Ouais.
Ça, c'est le petit conteur, parce que c'est un conte traditionnel. Donc c'était
on voit un petit conteur sur une chaise devant un tableau,
parce
pieds nus, dans la classe.
La majorité des enfants malgaches vont à l'école pieds nus. Alors, comment on trouve les moyens de le faire ? On jumelle une classe malgache avec une classe dans le nord, par exemple dans ce livre-là, avec une école à Ouessant, en Bretagne, en France, et qui, eux aussi, ont fait un conte. Et comme c'est un conte breton d'Ouessant, il est donc en français, en malgache, mais également en breton.
Et celui-là, du coup, vous le vendez en France ?
Exactement, voilà. 12 euros.
12 euros.
C'est pas cher.
Non, c'est pas cher. C'est très beau, en tout cas. La qualité est exceptionnelle. Ce sont des livres magnifiques pour les enfants, donc, avec cette maison d'édition Dodo Vol.
Merci.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
et la chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde. Chronique spéciale livre à offrir pour les fêtes. On va vous donner au moins une idée cadeau, comme chaque année. Le Canada, c'est Marie-Noël Blé qui s'y est collée pour un ouvrage jeunesse. Tiens, justement, on enchaîne après la publication de Dodo Vol. Allez-y Marie-Noël.
Oui, alors pour moi, l'album jeunesse de l'année s'appelle « Le livre où la poule meurt à la fin » de François Blais et Valérie Boivin. Pour contrebalancer la folie dépensière des fêtes de fin d'année, je vous propose d'offrir cet album drôlissime qui met en scène Catherine, la poule qui nage en plein délire consumériste. Elle fait chauffer ses cartes de crédit, elle achète sans compter sur eBay, elle crôle sous les objets complètement inutiles, mais aussi les dettes. C'est une fable qui nous rappelle non sans humour, mais sans faire la morale, le ridicule de certains comportements de consommateurs.
Et c'est aux éditions Les 400 coups, le livre où la poule meurt à la fin. Merci Marie-Noël. La Suisse, Dominique Bressou, quel livre conseillez-vous pour Noël ?
Alors moi, c'est un beau livre au titre bien francophone, à savoir Looking for Lenin. Et c'est un livre sur la décommunisation de l'Ukraine, ce qui a consisté entre autres à déboulonner les 5500 statues de Lénine présentes dans ce pays. Donc c'est un recueil de 70 photos superbes. C'est de Sébastien Gobert, Nils Ackermann, et c'est aux éditions Noir sur Blanc.
Formidable photographe Nils Ackermann, qui est déjà venu d'ailleurs dans la librairie francophone. Déborah Damblon est en Belgique. Que vous allez offrir un polar à Noël, vous?
Oui, mais pas à vous, Emmanuel. Parce que je sais que vous êtes une âme très sensible et que vous avez vite peur. Allez, on peut le dire devant tout le monde.
N'importe quoi.
Mais je suis vraiment pas sûre que ce livre soit pour vous. Mais ceux qui, comme moi, vous voyez, qui aiment les polars terribles, psychologiques, qui font un peu peur, qui vous laissent pas de répit, eh ben, je leur conseille La fille derrière la porte de Patricia Espel, parce que ils n'en sortiront pas indemnes.
Aux éditions Les Nouveaux Auteurs. Merci Déborah. Au Tchad, Marius Gartara Garyenge, vous avez choisi d'offrir une pièce de théâtre, Marius.
Oui, de Amat Taboui, au pays des démocrates ou la débrouillardise. Et cette pièce de théâtre nous plonge dans la vie quotidienne au Tchad profond. On découvre la réalité quotidienne. La corruption est là, le favoritisme, le clientélisme sont érigés en règle partout et pour tout. Comment fait-on pour vivre dans une telle cité ?
Très bien, la réalité donc africaine, politique et sociale à travers cette pièce de théâtre au pays des démocrates ou la débrouillardise aux éditions L'Harmattan. Merci Marius. Quant à moi, je vous conseille de la bande dessinée, tiens, avec Blutch qui interprète des scènes des classiques de la BD. Tintin, Astérix, les pieds nickelés, Gaston, Lucky Luke et plein d'autres. Un grand format tout en noir et blanc qui saura plaire aux vrais fans de BD, c'est chez Dargo. Et puis vous le savez, on a toujours un coup de cœur pour Picobog ici. On avait parlé de Picobog au tout début, hein, quand Picobog est né il y a à peu près 10 ans, c'est aux éditions Dargo, c'est un petit garçon chevelu rouquin. L'amour de l'art, c'est le dernier tome, c'est d'Alexis Dormal et de Dominique Roch, Picobog qui fait plein de bêtises et qui a surtout une vraie philosophie sur la vie, c'est sublime, Picobog chez Dargo pour petits et grands. Mélanie Chapuis, quel livre pour Noël, vous?
Alors ce sera Sol de Raluca Antonescu, c'est une Suissesse d'origine roumaine qui raconte la fuite de la Roumanie par deux sœurs. Ça raconte ce déracinement, cet enracinement dans un autre pays, cette mémoire amputée, et c'est un très beau livre aux éditions La Baconnière.
Exactement, Sol de Raluca Antonescu. Merci Mélanie pour ce choix. Et puis il y aura Philippe Génada, je le disais, et Jeanne Chiral tout à l'heure, pour leur choix de Noël aussi. Mélanie Chapuis vous parle de son recueil de nouvelles féministes qui analyse finement les comportements humains. Ce sera après un écrin musical. C'est notre révélation de cette fin d'année 2017. Voici un petit chef-d'œuvre interprété par Eddie de Préto. Écoutez bien le texte et vous allez comprendre. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi ces finesses tactiques. politique de ces femmes d'origine qui féminisent groguise sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils à terre et dopé de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent.
Retenez bien son nom, Eddy de Préto. Vous allez beaucoup entendre parler de lui en 2018. C'est le nouveau Stromae. C'était Kid sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Mélanie Chapuis est dans la librairie pour ce recueil « Ô vous, sœurs humaines », une référence directe à Albert Cohen, suisse comme vous, qui avait publié en 72 « Ô vous, frères humains ». L'hypocrisie, le culte des hommes pour la force étaient les thèmes abordés par Cohen. C'est un peu la mise en miroir féminine de ce livre ?
Peut-être, oui. Alors, raconté d'une façon... Donc là, on a 40 portraits de femmes, tandis qu'Albert Cohen, c'est dans Vous, frères humains, c'est une seule histoire, et une histoire terrible.
La sienne, oui.
Les histoires dans ce livre sont souvent moins terribles que la découverte de l'antisémitisme par un petit garçon juif le jour de ses 10 ans, mais j'espère qu'il y a des points communs, oui.
Alors, vous abordez la rivalité entre femmes, la solidarité aussi, qui peut prendre plusieurs formes. Vous montrez dans une nouvelle qu'au travail, la jalousie d'une assistante trop jeune peut entraîner la pire des misogynies.
Oui, alors
avec cette femme qui embauche un homme à la place.
Tout à fait. Donc c'est une chef qui hésite entre deux personnes qui ont deux CV irréprochables et qui finalement va choisir l'homme parce que la jeune assistante potentielle est trop jolie, trop optimiste, pas assez blessée par la vie. Donc elle se dit qu'elle allait réussir ailleurs ou se faire un peu abîmer par la vie avant de revenir postuler. Et voilà. Donc effectivement, c'est un livre féministe. Je suis contente que vous le disiez, mais ça ne fait pas passer les femmes pour des petits êtres purs et sans défense. Et on peut être des sacrés garçons entre nous, et donc c'est vraiment un appel à plus de solidarité, à se serrer davantage les coudes. On est très ambivalente. Je pense que c'est une ambivalence. Si on avait vraiment l'égalité et qu'on n'était pas dans une position de dominer mais de dominante, peut-être que ça irait mieux.
Ou d'équité, tout simplement.
Donc, voilà. Donc je ne dis pas que c'est dans notre nature, mais je dis qu'il y a du boulot pour plus de sororité entre nous. C'est donc un appel à ça, effectivement.
La complicité, il y a des thèmes comme ça qui chapitrent un peu votre livre. La complicité qui est illustrée par la possibilité d'une amitié entre deux collègues au travail. Passer le cap de l'amitié au travail, c'est risqué, Mélanie Chapuis ?
Ah ben, parfois, il faut bien choisir ses amis. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus j'avance en âge, moins je me plante. Mais donc, en l'occurrence, dans cette histoire-là, oui, c'est une femme qui a été tellement blessée qu'elle préfère la possibilité de cette amitié, mais c'est une hypothèse qu'elle choisit de pas aller vérifier, en fait, pour pas être déçue.
Elle préfère être seule qu'avoir une amie au boulot. C'est dur, ça aussi. Hein.
C'est dur.
Ouais. Par peur de tromperie et de coups bas.
Tout à fait.
Parce que si on aime quelqu'un, après on est déçu, quoi. Mm-hmm. C'est ça. Vous évoquez aussi par petites touches des sujets plus ancrés dans l'actualité, comme ces deux femmes homosexuelles qui décident de faire leurs aveux, si on peut dire, leur coming out à leur famille, et qui se trouvent ensuite dans cette discothèque de Floride, le Pulse, où il y a eu un attentat terrible qui a fait 49 morts. Une grand-mère aussi qui repasse
les seins de sa petite fille
en Afrique. Alors qu'est-ce que c'est ça? Vous pouvez nous raconter le repassage des seins?
Alors c'est
une tradition
terrible. Camerounaise, de plus en plus rare heureusement, mais il y a encore je crois 12% de la population des petites filles qui se font repasser les seins pour pas qu'ils poussent trop vite tout simplement, donc pour pas qu'elles se fassent déranger par les garçons, pour pas qu'elles se retrouvent filles mères trop vite.
Et avec des pierres chaudes.
Ouais, avec des pierres brûlantes, on repasse sur la poitrine et évidemment après ça crée des vies de femmes un peu...
C'est horrible, horrible. Donc, il faut le faire régulièrement, c'est ce que vous expliquez, enfin, oui. C'est ce que raconte la grand-mère.
Et donc
c'est
la petite affreux, fille, elle espère que sa mère va vite rentrer de la ville pour dire à sa grand-mère de ne pas le faire, ou alors pour être d'accord avec la grand-mère, parce qu'elle se dit, si maman est d'accord, j'aurai moins mal.
C'est très dur, hein, Mélanie Chapuis. Il y a beaucoup de sensibilité, mais c'est très dur. Quatre libraires ont lu votre recueil de nouvelles. Marius est au Tchad. Comment ça s'est passé, Marius, depuis N'Djamena, dans votre librairie?
Alors, l'ouvrage de Madame Chapuis... J'ai eu assez de difficultés à entrer dans son ouvrage, mais curieusement, quand on commence, on s'accroche par un mot, on finit par lire tout l'ouvrage. On médite une phrase, on s'approprie le texte. J'ai été touché par des mots tels que l'excision, la polygamie, l'amour malgré soi.
Voilà, vous avez eu du mal à rentrer dans ce texte et au final, vous avez été capté par les mots, capté aussi pour la concision de ces nouvelles avec des thèmes très universels, on en parlait. Merci beaucoup Marius. En Suisse, Dominique Bressoux, qu'en pensez-vous?
Alors moi, les mini-nouvelles de Mélanie Chapuis, ça m'a fait penser à des petites vidéos tournées sur le vif. Elles sont terriblement bien observées et pour certaines d'une cruauté absolument sans égale. Mais vos personnages sont définis en un instant par l'attitude des autres à leur égard et si ce n'est pas toujours flatteur pour les femmes, c'est tellement vrai qu'on ne peut qu'admirer votre sens de l'observation et savourer vos lignes jusqu'à la dernière.
Marie-Noëlle Blé, au Canada, vous êtes un peu plus mitigée, paraît-il.
Oui, mais quand même, je suis d'accord avec ma collègue. J'ai trouvé que les tableaux que vous peignez en peu de mots, dans des noirs et blancs, sans faux-semblants, sont incisifs, comme des dents bien aiguisées. J'aurais aimé croire que c'est exagéré, mais on peut vraiment juste admettre que pareille cruauté entre femmes existe. Ici, la mesquinerie n'épargne personne. Heureusement, la partie complicité nous réconcilie avec une forme de bienveillance pour l'autre. Et c'est vrai que ça m'a redonné un peu de souffle dans ma lecture.
Et puis, dans un registre beaucoup plus personnel, Mélanie Chapuis, il y a les relations mère-fille. La maternité qui change le regard d'une femme sur elle-même. Vous êtes maman, Mélanie Chapuis, et vous avez dit « Devenir mère, ça complique tout. Ça enlève tout votre temps, ça déclenche des frustrations et met tout en danger, à commencer par le couple. »
C'est vrai ? J'ai dit ça. Mais j'ai dit aussi que c'était très beau et que c'était un bouleversement. Mais un bouleversement justement parce qu'on ne s'attend pas à autant d'amour. Mais oui, je suis mère, je suis fille aussi. Donc, mais oui, il y a effectivement des histoires de rivalité entre mère et fille très douloureuses dans ce livre. Deux ou trois. Et puis d'autres.
Certaines
très
sont
belles.
Jalouses même. Hein. Il y en a une qui dit à sa fille « Tu es belle ce soir, profites-en, ça passe vite. Moi, à ton âge, j'étais encore plus belle que toi.
Mm-hmm. » Mais je pense qu'elle l'a dit un peu sur le ton de la plaisanterie, mais on le reçoit pas comme quelque chose de drôle.
Non, en fait. C'est pas drôle. Devenir mère, est-ce une façon immédiate et obligatoire de prendre du recul sur soi, de prendre aussi un peu de hauteur?
Ça sauve du nombrilisme, donc c'est magnifique. Moi, personnellement, j'ai adoré devenir mère, même si c'est crevant, même si je trouve qu'on a moins de temps, mais en même temps, on a beaucoup plus de force qu'avant. Donc, c'est complexe de devenir mère. Et c'est ce que j'aime aussi dans la description de la maternité, c'est que c'est ni blanc ni noir, c'est qu'il y a des choses merveilleuses et des choses moins faciles à avouer aussi.
Mais comment vous expliquez l'égocentrisme de certaines femmes? Parce qu'il y a encore ça dans vos histoires, en tout cas, Mélanie Chapuis, avec ces femmes qui sont égocentriques. Et ça les rend malheureuses d'ailleurs.
Oui, alors je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des femmes très généreuses aussi dans ce recueil.
Malgré la maternité.
Il y a un peu
parle.
De tout, oui. Je décris des situations, des choses vues, vécues, lues. Et après, la théorie autour, j'ai plus de mal.
Jeanne Chéral, devenir mère, ça a un peu enlevé votre égocentrisme. Ça l'a un peu réduit.
Oh bah, ça décentre, c'est sûr.
Ah oui.
C'est vrai, hein, ça décentre d'être parent.
C'est clair.
Et c'est bénéfique.
Et c'est salvateur.
Complètement. On n'a plus uniquement soi-même à s'occuper, ça fait du bien, quoi. On sort un peu de son petit nombril.
Vous avez l'air heureuse, en tout cas, hein, des mamans heureuses. Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Honneur à la Belgique, Mélanie Chapuis, avec Déborah Damblon, qui a lu attentivement vos histoires.
Eh oui, et en vous lisant, eh bien, j'ai souri, j'ai pleuré, j'ai eu mal aussi, j'ai serré les dents, et j'ai ressenti quand même de la consolation à certains moments, de l'apaisement. Enfin bref, je suis passée par une foule de sentiments, mais surtout, et je trouve que c'est vraiment là la grande force de votre livre, je me suis sentie appartenir à un groupe, et ça, sans jugement. Et j'ai été heureuse d'être une femme, et vraiment heureuse d'être une de vos sœurs humaines.
Eh ben, ça fait très plaisir, je vous remercie.
Vous avez séduit tous nos libraires, Mélanie Chapuis. Félicitations jusqu'au Tchad. Toutes nos félicitations. Merci beaucoup, Mélanie. Oh, vous, Sœurs Humaines, est paru aux éditions Slatkin. À bientôt, Mélanie.
À bientôt.
Philippe Génada, vous avez une dernière mission, trouver un cadeau, un livre à offrir pour Noël, puisque on est en pleine course au cadeau. Quel livre allez-vous offrir?
Je vais offrir à Noël un livre que j'offre dans beaucoup d'autres circonstances, qui n'est pas un roman, qui est le journal d'Hélène Baer, qui est sous l'occupation le journal d'une jeune femme juive, une étudiante. Et ça paraît un peu dur comme ça, d'autant qu'elle a une fin extrêmement triste. Elle est morte dans un camp de concentration quelques jours avant l'arrivée des Anglais ou des Américains. Mais à Paris, elle raconte sa vie de tous les jours avec une force. Ça rejoint pas mal de choses dont on a parlé. Et cette petite jeune femme, toute seule dans Paris, dans un monde rude, sauvage, noir, désespérant, avec des nazis partout, eh ben elle est plus forte qu'eux, quoi. Elle dégage une lumière qui éteint complètement tout ce qu'il y a autour d'elle, toutes les saletés qu'il y a autour d'elle.
Rappelez le titre du livre, s'il vous plaît.
Le journal d'Hélène Baer. Elle s'appelle donc Hélène Baer et elle a écrit un journal qu'on a retrouvé
on
il y a une dizaine d'années.
Chez quel éditeur?
C'est publié en poche, je ne me rappelle plus chez qui, mais c'est très facile à trouver.
D'accord. Merci Philippe. Chaque année, on vous conseille aussi des livres d'exception. Ils sont chers, c'est vrai, mais pas autant qu'un gadget numérique et très loin du prix d'un smartphone. Le premier est un livre d'art publié par Citadel et Masno, sans doute le meilleur éditeur de livres d'art. Gauguin, sa vie, son œuvre. Est un livre parfait, j'aimerais vous donner ses défauts, mais je n'en trouve pas. La reproduction des toiles est d'une grande précision, on y retrouve toutes les œuvres réalisées à Tahiti. Jamais vous ne verrez Gauguin comme ça, ça coûte presque 200 euros. Toujours chez Citadel et Masno, mais à un prix beaucoup plus modéré, moins de 50 euros pour vous donner une idée. Léonard de Vinci, l'art du dessin. Si comme Jeanne Chéral, vous aimez les corps des hommes, eh bien vous pourrez décrypter les dessins anatomiques de l'homme chez Vinci, mais pas seulement, il y a plein de choses, c'est absolument magnifique. Voilà, bah justement, Jeanne Chéral, vous concluez. Quel livre allez-vous offrir, vous?
Ah, je pensais à la serpe.
J'avais
une autre idée. C'était un livre de Chimamanda Ngozi Adichie qui a dû sortir l'année dernière, qui s'appelle Cher Ijiwele. Et c'est une de ses amies, c'est une auteure nigériane, ouais. Géniale. Une de ses amies, en accouchant de sa première fille, lui a dit: mais comment donner à ma fille une éducation féministe? Et elle lui a répondu dans une très belle lettre. C'est un tout petit bouquin, mais voilà, c'est une éducation féministe universel, c'est
le
magnifique.
Titre.
Cher Ijiwele.
Merci beaucoup Jeanne Chéral. Merci Philippe Génada. Vous pouvez offrir la Serpe Prix Femina 2017, bien
ah
sûr.
Oui.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe algérien Imaran avec un extrait de Azaman.
الزمان كي
Imaran Azaman, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Henri Bérec, Léo Prangère et Célim Guéribi. Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Vera Louderide et Christophe Magère, Martine Béguin-Follet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. Merci beaucoup Philippe Génada.
Merci.
Merci Mélanie Chapuis. Merci. Merci Jeanne Chéral. La semaine prochaine, nous fêterons Noël justement. Je vous souhaite de bonnes fêtes à vous trois. Noël avec Juliette Binoche et Christian Bobin, deuxième partie. Une rencontre entre Kim Thuy et la sommelière Michel Bouffard autour des repas de Noël au Vietnam. Et Enki Bilal sera en plateau avec nous. Bonne semaine, bon week-end. Salut.